Pour la méditation, je vous propose un récit un peu étrange, un peu crépusculaire. C'est un rêve, c'est le rêve d'un des ancêtres du peuple d'Israël. C'est le rêve de Jacob. Alors, quelques mots de contexte. Les événements qui précèdent étaient déjà curieux, voire même odieux, parce que c'est un peu le chapitre des magouilles. Ceux qui ne... Si vous ne l'avez pas en tête, donc c'était... Ce que vient de prier Jean-Claude faisait écho pour moi, parce que là, dans le récit précédent, donc le père de Jacob était âgé, il était aveugle, et vraisemblablement pas très loin de mourir, et on entend déjà qu'il voulait bénir le frère de Jacob, donc son autre fils, il voulait le bénir en cachette, en secret. Déjà. La mère de Jacob, ayant entendu ça, n'était pas d'accord, et elle a trouvé un stratagème pour que ce soit Jacob qui hérite. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que Jacob s'est fait passer pour son frère, donc comme le père est aveugle, mais voilà, ça aide, si je puis dire, et il a volé la bénédiction de son frère. Et évidemment, son frère n'est pas content, et il dit qu'il veut tuer Jacob. Comme famille heureuse, on peut mieux faire. Et du coup, la mère de Jacob, qui arrive même à mettre son mari dans le coup, dit à Jacob de partir dans sa famille à elle, le temps que les choses se tassent. Et ça veut dire que Jacob entame seul un voyage à pied de 900 kilomètres. Et quand nous arrivons au chapitre 28 de la Genèse, au verset 10, il est à environ 100 kilomètres de chez lui.
Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint.
Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord, vers le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis.
Jacob s'éveilla et s'écria « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, Et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas.
La première conclusion que je vous propose de tirer de cette histoire, c'est que Dieu n'est jamais limité pour se révéler aux humains que nous sommes. Il n'est pas limité ni par le lieu, ni par le temps, ni par la manière, ni par la personne. Et le texte l'illustre bien, je crois. Dieu se révèle à qui il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut. Et je vais le reprendre. J'ai envie de dire, mesurons. Jacob est au milieu de nulle part. Il bivouaque, c'est tout confort. Vous avez entendu qu'il avait quelques pierres sous la tête. Jacob est là tout à fait par hasard. C'est juste parce que sa marche l'a conduit là. La nuit tombée, ben il était là. Il aurait pu être 20 mètres plus loin. Il était là. Donc le lieu n'a rien de singulier. Ce n'est absolument pas une église. Il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de vidéoprojecteur, de sono, d'accompagnateur, de placier. Voilà. Il n'y a pas de communauté rassemblée. Il est tout seul. Il est loin apparemment de tout. Qui pouvait penser que c'était là précisément que Dieu allait le rencontrer. Et on pourrait dire même, est-ce qu'il pensait même à Dieu? Et même s'il pensait à Dieu, même s'il l'a fait, qu'est-ce qu'il pouvait bien espérer de lui? Lui qui venait de gruger son père et de voler ce qui était destiné à son frère. Lui qui venait de faire un abus de faiblesse, si je puis dire, de profiter de l'état de faiblesse de son père. C'est un peu comme si son père avait été peut-être sur un lit d'hôpital et qu'on profite qu'il ne sache pas très bien ce qu'il faisait, qui est là. Il dit, papa, signe en bas, t'inquiète pas, tout va bien. C'est un peu ça, pour lui faire changer les termes de son testament. C'est ça qui se passe. Et on a envie de dire que c'est sordide. Et pour nous qui lisons le récit, en fait, à propos de Jacob, jusque-là, on ne sait rien d'autre de Jacob. Le récit ne nous a rien raconté d'autre, sinon cet épisode, et ça ne fait pas de lui vraiment quelqu'un de très sympa, de très sympathique, avec qui nous aurions plaisir à bavarder tout à l'heure à la fin du culte. En tout cas, on n'aurait pas forcément plaisir sans crainte du coup fourré. Et les mots qui nous viennent peut-être... Alors, excusez le langage, mais c'est opportuniste, et peut-être on pourrait dire, ben, c'est un salaud, quoi. Et voilà que Dieu lui parle. Donc à un moment où Jacob ne s'y attendait pas, mais pas du tout, et en plus c'est un moment où Jacob n'y est absolument pour rien, il dort, quand vous dormez, c'est un rêve. Donc c'est une situation où on ne demande absolument rien et où on ne peut absolument rien contrôler. Ordinairement, enfin, les rêves que nous faisons, eh bien, on ne maîtrise pas. Nous aimerions faire davantage de beaux rêves ou faire moins de cauchemars, ou la personne qui dort à côté de nous aimerait qu'on fasse moins de cauchemars. Parfois la nuit je crie, donc au secours je crie parfois. J'ai fait ça une fois en camping, d'ailleurs. Je criais tellement fort, et ma femme n'était pas là, à ce moment-là, elle n'était pas arrivée. Et c'est la voisine qui est venue au milieu de la nuit. Donc elle m'a réveillé. Donc voilà. Je lui ai dit, bon, on s'est réveillés tous les deux, un partout. Mais donc, on ne contrôle absolument rien. Et c'est par ce moyen-là que Dieu parle et que Dieu va s'adresser à Jacob. Et on pourrait là se poser des questions, mais pourquoi lui? Pourquoi ce gars-là? Pourquoi de cette façon? Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas pour d'autres ? Et pour nous, peut-être. On aimerait bien, peut-être. Pourquoi ? Pourquoi ? Et le texte ne répond pas à cette question. Dieu, c'est vrai ici et c'est vrai ailleurs, à de multiples reprises, Dieu ne nous donne pas ses raisons pour agir comme il le fait, ou bien de ne pas agir comme il ne le fait pas. Pourquoi ? Jacob probablement aurait eu du mal à l'expliquer lui-même. C'est ce qui se passe, c'est tout. Et à défaut d'explication, donc ce que nous entendons, c'est que Dieu peut se révéler partout. Qu'il peut se révéler n'importe quand, même quand nous dormons, à n'importe qui, et sans même que nous y soyons pour absolument rien du tout. Voilà bien le caractère déroutant. Voici bien un signe de la grandeur et de la grâce du Dieu dont parle la Bible. Et j'ai parlé de grâce parce que je crois que c'est ce qui se donne à deviner ici. Jacob, je l'ai dit, il y a des chances que nous soyons tentés de le regarder avec mépris. On n'a pas envie d'avoir comme copain de travail. Peut-être pour deux raisons. Peut-être parce qu'il complote avec sa mère et les plus misogyne, dirait, mais il se laisse, je sais pas, c'est misogyne, il se laisse manipuler par sa maman, peut-être. Donc c'est pas la famille en tout cas où on sent très à l'aise. En plus il va se marier là-bas, donc la personne qui va intégrer cette famille-là, on n'aimerait pas trop être à sa place. Et en tout cas il rentre dans le jeu, il est intéressé et il ment. L'autre frère est parti chasser des animaux, et puis il se fait passer pour lui, il dit « ça y est, je suis de retour ». Et il se sert même de Dieu pour tromper son père, au père qui lui dit « mais quand même, t'as fait drôlement vite, quoi ». Il dit « oui, mais c'est l'Éternel ton Dieu, tu vois, il m'a fait trouver du gibier, là, c'était fantastique, je n'ai pas eu à me déplacer, je suis là ». Donc c'est Dieu, c'est pour ça que je suis là si vite, qui met Dieu dans le coup. Et on pourrait s'attendre, quand Dieu vient à sa rencontre, au minimum, que Dieu le prenne un petit peu entre quatre yeux, qu'il lui tire les oreilles, plus que ça, qu'il lui remonte les bretelles, sérieusement. Parce que Dieu, si nous nous trompons les uns les autres, si les hommes se trompent les uns les autres, Dieu, on ne trompe pas. Et il n'aime pas que nous trompions. Il n'aime pas, nous savons par la suite du récit, il n'aime pas qu'on ne respecte pas ses parents. Et on sera invité aussi plus loin dans le récit à ne pas prendre son nom en vain. Et en vain, ici, c'est peut-être même plus grave qu'en vain, parce que c'est même pour mentir. Donc c'est une mise au point sévère qu'on pourrait attendre. Et d'autant plus que dans le récit, en tout cas, c'est apparemment la première fois que Dieu parle à Jacob. Donc c'est pour les premières paroles qu'on attendrait de Dieu, on pourrait s'attendre quand même à ce qu'il marque le coup. Ou bien quitte à lui donner un rêve, on pourrait se dire qu'on s'attend à ce qu'il secoue un peu Jacob. Alors, il n'aurait que l'embarras du choix, sans doute, cauchemar, de différents types, quelques démons, quelques zombies éventuellement. Un petit coup d'œil sur l'enfer. Voilà ta destination, réfléchis bien, mon petit bonhomme. Si tu continues comme ça, tu vois où tu vas. Et on peut être surpris, parce que c'est la vision d'un escalier qui va droit au ciel. Une vision d'ange qui monte, qui descende. Un espace de communication, finalement, entre la terre et le ciel. Un espace de relation entre la terre et le ciel. Et non pas de fermeture. Et non seulement ça, mais vous l'aurez peut-être vu, c'est que les paroles que Dieu adresse à Jacob sont des paroles que Dieu avait déjà adressées aux parents, aux ancêtres de Jacob. Il y fait référence d'ailleurs. Je suis le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, je suis le Dieu d'Isaac, donc son père. Il lui adresse des promesses et des promesses de bénédiction. Et le verset 15 est typique, je le relis. « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas
mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Hé, c'est pas le genre de message qui est déplaisant à entendre. Hein. Dès comme ça, et dès comme ça de la part de Dieu, on peut se dire qu'on en aimerait tous les matins. D'où la stupeur, parce qu'on pourrait se dire, mais s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas, qui ne mérite absolument pas d'entendre ça, c'est bien ce gars-là. Si encore il manifestait quelques vagues signes de repentir, de regret, peut-être à la rigueur, on pourrait lui donner un petit encouragement, allez, bon. Mais là, c'est zéro, zéro de chez zéro. Et c'est à ce magouilleur, c'est à ce sale type que Dieu dit tout ça. Et peut-être qu'on a envie de dire, mais c'est trop facile. C'est pas juste. Pourquoi lui ? Comme on a envie de dire, parfois, en entendant le message de l'Évangile. Alors c'est comme ça, Dieu nous a aimés au point de donner son Fils, pour nous, et nous on aurait juste à croire. C'est trop cool. Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est pas trop facile ? Est-ce que c'est normal ? Et à certains égards, apparemment à ne pas prendre à la lettre, qui veut dire absolument, et de manière déroutante, il nous faut répondre par rapport à l'Évangile. Il en est bien ainsi. Alors bien sûr, il ne faut pas s'en tenir là, exactement là, et ne rien dire d'autre. Le Christ nous appelle à marcher dans ses traces. Et celui qui lui dit Seigneur, sans se soumettre à lui et sans faire ce qui lui plaît, est en grand péril. Et pour revenir à Jacob, la suite de l'histoire nous apprend qu'il ne va pas, ça ne va pas se faire de manière si tranquille, si simple. Il ne restera pas indemne de ses rencontres avec Dieu. Et en même temps, ici en tout cas, à ce moment du récit, je vois combien la grâce lui arrive avec tout son caractère incompréhensible, toute son épaisseur. Et j'ai envie de dire comme elle nous arrive à nous, comme elle nous rejoint à nous aujourd'hui, avec la même épaisseur. C'est à des gens comme ça, c'est à des gens comme Jacob, c'est à des gens qui peut-être suscitent notre répulsion, qui ne semblent pas trop s'intéresser même à Dieu, qui ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive. C'est à des gens comme ça que Dieu s'adresse, et c'est des gens comme ça que Dieu appelle. Et pardonnez-moi peut-être si vous me pardonnerez, mais si vous me pardonnez, j'ai envie de dire, c'est des gens comme vous et moi. On n'a peut-être pas fait signer le testament à notre Père dans ces derniers jours, dans le sens qui nous arrangeait. Mais on a peut-être aussi d'autres choses au compteur. C'était des gens ordinaires. C'était des sales types. Ordinaires. Ce sont ces gens-là que Dieu appelle. Et peut-être c'est ce qui peut nous permettre de toucher du doigt quelque chose qui est très étonnant, à mes yeux en tout cas, dans la réaction de Jacob. Le texte dit assurément, alors c'est le texte dit que Jacob dit, assurément, dit-il, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte. Et je trouve étonnant parce qu'apparemment, il vient d'avoir une vision assez paisible. Il vient d'entendre des paroles de Dieu qui sont quand même boostantes, qui sont stimulantes, zéro reproche. Et j'ai envie de dire, mais si Dieu me disait ça, moi, peut-être pas, mais bon, j'imagine, science-fiction. Mais je serais tenté de croire que je suis quand même un gars que Dieu vient me dire des choses comme ça, c'est que, Dieu, il m'admire, il me respecte quand même, un minimum, pour recevoir de telles promesses, c'est que je dois être quelqu'un. Si Dieu m'a remarqué comme ça, qu'il va être tout le temps avec moi, qu'il me fera venir, je serai toujours là, etc., c'est que je suis quelqu'un qui compte. Dieu veut ma compagnie. Et tous les discours débiles qu'on peut se raconter quand on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie, parfois. Ouais, Dieu m'a donné ça, c'est vraiment que je suis dans le bon sens. Là. Autrement dit, dans ce qu'on entend de Dieu, tout est ok, et il semble même y avoir tout pour se réjouir. Et Jacob est saisi de crainte. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est peut-être parce que Jacob, en fait, il connaît pas bien Dieu, parce que Jacob est ignorant, c'est l'Ancien Testament, c'est le début de l'Ancien Testament en plus. Et puis on le voit dans d'autres aspects du récit, on peut bien penser que Jacob, j'illustre, Jacob semble bien s'imaginer que l'endroit où il est arrivé par hasard est un petit peu un endroit magique, au fond. Alors cet endroit, il va le marquer. Il va le signaler sur la carte, sur l'IGN. Voilà, telle coordonnée GPS, ce n'est pas un lieu comme un autre, on met une petite étoile, site extraordinaire. Et puis, on peut s'interroger aussi quand on voit qu'il intéresse Dieu à son entreprise, au succès de son entreprise. Les derniers mots qu'il dit, de tout ce que tu me feras gagner, tu auras 10%. Donc c'est tout bonus pour toi aussi. Je force le trait, on peut le dire autrement, mais bon, voilà, c'est juste pour l'effet oratoire, hélas. Et tout ça peut sembler quand même maladroit. Même si, en même temps, Jacob est sans doute sensible à quelque chose à quoi nous ferions bien, ou nous faisons bien d'être sensibles si nous le sommes, à savoir que la relation à Dieu, ça s'entretient. Ça s'entretient peut-être dans des lieux, dans des temps. Et que si ça ne s'entretient pas, bien cette relation à Dieu risque de perdre un petit peu de ses couleurs, de se faner, voire même de s'évaporer. Il y a eu le confinement, et puis on a oublié, hein, petit à petit. Et si nous en étions là, ben je crois qu'il y a des questions à se poser. Et là, Jacob, pour le coup, a une posture qui peut être intéressante de voir. Et j'aime bien aussi ce qu'il dit, Dieu est là et je ne le savais pas. Et j'entends là aussi, mais est-ce que Dieu est là uniquement quand nous le sentons, quand nous le savons? Pour le coup, le texte nous fait bien sentir ça. Donc, on pourrait bien parler d'ignorance, de maladresse de la part de Jacob, qui ne savait pas encore que Dieu est si bon, si fidèle, et que ce serait mal le connaître que de le craindre. Sauf que dire cela, ce serait oublier bien que l'expérience de Jacob et ce qu'il vit, sa réaction, elle n'est pas du tout isolée dans la Bible, jusqu'au Nouveau Testament. Et c'est apparemment le plus souvent, peut-être à chaque fois, qu'un être humain se trouve en contact avec Dieu, eh bien il éprouve, dans l'Écriture en tout cas, très très largement, il éprouve de la crainte. Et c'est d'autant plus touchant que c'est même quand Dieu manifeste sa bonté, comme ici, même devant la beauté, devant la bonté, il n'en reste pas moins que Dieu est au ciel, et toi tu es au bas de l'échelle, tu es sur la terre, et que c'est à ce Dieu-là, c'est à un Dieu que nous nous adressons, donc quelqu'un qui nous dépasse infiniment. Et je crois que nous aussi, nous ne devons pas l'oublier, nous à qui une autre vision de l'échelle a été donnée, c'est une vision dans laquelle Dieu n'est pas simplement en haut de l'échelle, comme ici, mais Dieu en son Fils a descendu l'échelle, si je puis dire, et l'a descendu jusqu'à son dernier échelon, jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir, pour nous, pour chacun de nous, pour chaque être humain qui veut se laisser interpeller. Et c'est dans cette mort pour des rebelles, cette mort pour des sales types, des sales bonnes femmes, des gens qui parfois tout bonnement n'avaient pas grand-chose à faire de Dieu, hein, très bien vivre sans lui, des gens qui n'ont rien, mais alors rien mérité du tout. C'est dans cette mort que l'Évangile nous dit que se trouve la manifestation de la bonté et de la grâce de Dieu. Elle nous est donnée dans quelque chose qui est effrayant, qui est insoutenable, qui est incompréhensible, peut-être, et en plus quelque chose de profondément injuste, la mort d'un innocent sur la croix. Et c'est cela, étonnamment, que chacun d'entre nous est invité à contempler, jusqu'à, je l'espère, à dire, assurément, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je l'ignorais. Cela est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici, la porte du ciel. Que cette perspective, en tout cas, si elle nous manque, elle renouvelle notre engagement à suivre le Seigneur. Et pour le dire, je vous propose de chanter, de nous lever et de chanter « Jésus, je te suivrai ».